Alors, on va réfléchir ce soir à la technique et plus précisément au progrès technique. Avec le sujet suivant, le progrès technique est-il un progrès pour l'humanité ? Alors, on peut partir d'un premier constat très simple, c'est que les objets techniques, les outils ou les machines, et aussi des techniques dématérialisées, comme les techniques de vente, le calcul mental, autrement dit des pratiques techniques, sont partout. Aussi bien les objets que les pratiques techniques sont partout. Ils composent notre monde, ils envahissent notre pratique, au point que nous ne les voyons plus. Nous nous habituons à la présence de la technique, à l'omniprésence de la technique. On pourrait dire que la technique, en fait, est comme une deuxième nature, à laquelle, que nous le voulions ou non, il faut nous adapter, et à laquelle nous apprenons aux jeunes enfants qui viennent au monde, qui grandissent, à s'adapter. Les plus âgés, d'ailleurs, on le sait, un peu perdus face aux innovations techniques, montrent leur bonne volonté en disant qu'il faut bien vivre avec son temps, qu'il faut bien s'adapter à son temps. Et par ces phrases-là, on veut dire qu'il faut s'adapter à l'apprentissage de la technique, à l'usage de la technique. Et on sait d'ailleurs que les personnes les plus récalcitrantes aux innovations techniques sont un peu laissées de côté, un peu has-been, un peu périmées précisément comme des objets. On propose aux plus jeunes des cours d'informatique, convaincus qu'il faut maîtriser dès que possible les outils d'aujourd'hui. Car en effet, sans cette maîtrise de la technique, c'est l'impuissance qui nous guette. L'animal doit s'adapter à la nature, repérer les dangers, se mettre en quête de nourriture, s'abriter. L'homme, lui, en tout cas aujourd'hui, doit désormais s'adapter à son environnement technique, et très peu, voire pas du tout à la nature elle-même. Ce qui est en jeu dans cette adaptation à la technique, si vous me permettez l'expression, c'est non pas directement la survie individuelle, mais la capacité de l'individu à s'intégrer à la société. Alors, ce rapide constat que j'affinerai, hein, bien sûr, tente à montrer que la technique est devenue un phénomène global, un système, comme l'indiquent les expressions que j'ai employées comme monde technique ou deuxième nature. Il est vrai qu'il y a des techniques, il y a une diversité des techniques, il y a une diversité des domaines auxquels s'applique la technique, mais on peut considérer le progrès technique, pris de manière unitaire, le progrès technique, comme un phénomène global. On dit, on n'arrête pas le progrès. Et pas seulement, on fait des progrès dans tel ou tel domaine, ou on note des améliorations techniques dans tel et tel domaine. C'est-à-dire que chaque amélioration particulière est perçue comme l'expression ou le signe d'une marche inexorable et fatale d'un unique progrès. Donc le progrès est un système en marche, une sorte de fatalité. Il y a des progrès, mais il y a aussi une marche du progrès, pourrait-on croire en tout cas, le progrès comme système. Ce qui va nous amener à poser la question de savoir si le progrès est une fatalité, une nouvelle fatalité, un nouveau destin pour l'humanité. Poser cette question, vous voyez, en interrogeant simplement nos manières de parler, hein. On n'arrête pas le progrès, c'est le progrès, on n'y peut rien, on ne peut pas revenir en arrière, etc. Donc se demander si le progrès est une fatalité, une nouvelle fatalité, soulève deux problèmes, deux paradoxes qui sont liés. Le premier, c'est que la technique, si on doit adopter une première définition générale, la technique consiste à articuler des moyens à une fin. C'est-à-dire on a une finalité, on poursuit un but, et on va articuler des moyens permettant d'obtenir ce but, qui est en général de l'ordre de la survie ou de l'amélioration de nos conditions d'existence. Cette articulation des moyens et des fins, c'est pour l'homme une manière au départ de maîtriser la nature. Or, la notion de progrès technique, on va le voir, renvoie à l'idée paradoxale d'une difficulté de maîtriser le progrès lui-même. C'est-à-dire qu'au départ, la technique est censée nous aider à maîtriser la nature, mais aujourd'hui, on en vient à se poser la question de savoir si on peut maîtriser le progrès technique lui-même. En fait, ce qui nous permet de maîtriser la nature devient un processus qui tendrait à s'autonomiser, requérant de notre part des efforts nouveaux d'adaptation. Comme je disais au point de départ, nous devons nous adapter au progrès technique et non plus à la nature. Paradoxe, puisque le progrès technique était censé nous aider à nous adapter à la nature. Et donc à mesure que nous dominons la nature, à mesure que nous augmentons notre puissance, nous créons aussi des conditions techniques qui entraînent de nouvelles difficultés. Un exemple simple, la panne. Plus il y a de technique, plus il y a de panne. En fait, depuis l'invention des machines, nous avons aussi inventé des problèmes nouveaux qui ne se posaient pas auparavant, des problèmes de panne. C'est un petit exemple pour montrer que ce qui accroît notre puissance accroît aussi peut-être notre impuissance, ou en tout cas, crée une forme inédite de faiblesse. C'est le premier problème. Le deuxième, c'est le suivant. Est-ce que le progrès technique est un progrès moral ? Est-ce que le progrès en termes de puissance va vers le mieux, va vers le bien ? Question simple. Hein. Mais le progrès technique est-il désirable ? Hein, est-il un bien ? Et donc, pour jouer un petit peu avec les mots du sujet, vous voyez, le progrès technique est-il un progrès pour l'humanité ? C'est poser la question, est-ce que le progrès technique nous rend plus humains ? Est-ce que le progrès technique est vraiment un progrès pour l'homme ? Ou un progrès même en humanité, au sens moral ? Est-ce que finalement, cet accroissement de puissance ne nous déshumaniserait pas ? Alors, c'est un exemple très classique, hein, mais il est fréquent d'entendre dire que les exemples d'Auschwitz, par exemple, ou d'Hiroshima, montrent qu'il y a eu un déploiement technique important au service du mal, au service de la destruction. Donc nous nous interrogerons de la manière suivante. La technique, dans la mesure où elle devient un système qui tendrait à s'autonomiser, un système qui deviendrait impensable, imprévisible, n'est-elle pas alors peut-être une menace pour l'humanité ? Et dans ce cas-là, que faire ? Comment la penser ? C'est pas très réjouissant, mais il me semble qu'il y a un impératif à penser cette question. Donc je me résume. Le progrès technique est-il un progrès pour l'humanité ? On verra dans un premier temps que la technique est un progrès dans la mesure où par la technique, il y a eu un progrès pour l'humanité. L'humanité s'est arrachée à la nature, s'est arrachée à l'instinct. Donc le progrès pour l'humanité par la technique, grâce à la technique. C'est encore le progrès de l'humanité dont il sera question dans cette première partie. Perspective très classique en philosophie de la technique. On verra ensuite que, du fait des progrès de la science moderne, le progrès n'est plus seulement un progrès de l'humanité, mais un progrès de la technique elle-même. C'est-à-dire que grâce à la science, il y a eu un accroissement de puissance dans les moyens techniques eux-mêmes. Le progrès de la technique a entraîné au départ, il est vrai, une accélération du progrès pour l'humanité, mais on va voir aussi que peut-être, et ce sera la troisième partie, le progrès technique tendant à s'autonomiser devient une menace. Donc voilà, le progrès, premièrement, les progrès de l'humanité par la technique, deuxièmement, le progrès de la technique en elle-même, grâce à la science, qui troisièmement tendrait à s'autonomiser et à devenir paradoxalement une menace pour l'homme. Première partie, les progrès de l'humanité par la technique, grâce à la technique. Bon, donc je vais faire quelques développements philosophiques très classiques sur la notion de technique. Donc pas encore vraiment de progrès technique. Hein, j'essaierai de réfléchir à la distinction qu'on peut faire entre la technique et le progrès technique, ou la technique comme système technicien, hein, système technologique global. Pour l'instant, on va parler de la technique au sens où il existe des techniques qui répondent à la définition que j'ai donnée au départ, à savoir à chaque fois, il y a une finalité qui est de l'ordre de la survie ou de l'amélioration de nos conditions d'existence, et puis le savoir technique consiste à trouver des moyens pour assurer cette survie ou ce confort. Alors on peut partir d'un mythe extrêmement célèbre qui se trouve, un mythe grec, dont une version se trouve dans un texte de Platon, un dialogue qui s'appelle le Protagoras. Ce mythe, c'est le mythe de Prométhée, hein, qu'on cite très souvent lorsqu'il est question de technique. Platon, dans ce dialogue, rappelle le mythe qui vous dit peut-être quelque chose, c'est-à-dire qu'il raconte que Épiméthée et Prométhée sont chargés de préparer la venue des êtres vivants à la surface de la Terre. Ils doivent donc doter chaque espèce d'un certain nombre de caractéristiques qui permettra sa survie. Donc il y a un partage assez équitable qui se fait de la part d'Épiméthée, celui qui pense après, c'est-à-dire qui n'est pas très malin, Donc il va doter certains de la capacité à courir très vite, d'autres de chasser, d'autres de se couvrir, etc. D'autres qui seront des proies auront une descendance nombreuse. Bon, le partage se fait assez équitablement et Épiméthée, peut-être le savez-vous, oublie l'homme. Donc, première idée intéressante, l'homme, au moment de son arrivée sur Terre, au moment de l'origine de sa présence sur Terre, est démuni et nu dans la nature, contrairement aux autres espèces qui sont pourvues par la nature. Évidemment, là, on voit l'absence d'instinct chez l'homme. Et donc, cette absence d'instinct va être palliée par un vol. Prométhée, le frère d'Épiméthée, pour compenser l'erreur de son frère, va voler le feu et la connaissance des arts à Héphaïstos et Athéna, donc le dieu de la forge et des arts, et puis la déesse de l'intelligence. Et donc, il va donner aux hommes non seulement le feu, mais surtout l'intelligence technique. Bon, donc ce mythe, à sa manière, exprime que ce que l'homme n'a pas en instinct, ce dont la nature ne l'a pas doté, il le compense par son intelligence. Ce mythe, donc, il décrit la place particulière de l'homme dans la nature par rapport aux autres espèces. Hein, on voit qu'il y a un saut, un écart qualitatif, vraiment, entre la place de l'homme et la place de l'animal. Et on voit d'ailleurs que cette place particulière se fait par un rapport très privilégié aux dieux, hein, puisque Prométhée vole quelque chose qui est un attribut divin pour le donner à l'homme. Il y a à la fois une transgression à l'origine de la technique et puis en même temps une relation aux dieux. Cette puissance, d'ailleurs on y reviendra, cette puissance usurpée aux dieux pose des problèmes éthiques. C'est-à-dire qu'on voit dans ce mythe qu'on ne violente pas la nature sans risquer certaines conséquences. Alors le mythe donc montre que la technique est une forme d'intelligence chez l'homme. Vous voyez, la technique n'est pas naturelle, la technique n'est pas un instinct, c'est une forme d'intelligence, mais ça n'est pas toute l'intelligence de l'homme. La fin du mythe est intéressante, c'est-à-dire qu'en fait, ce savoir-faire technique, les hommes ne savent rien en faire tant qu'ils n'ont pas l'art politique. Il leur faut l'art politique, c'est-à-dire qui est un art. Pour les Grecs, c'est la même chose qu'une technique, même si on pourrait discuter, mais je ne vais pas le faire ici. Mais l'art politique au sens où il faut un savoir-faire qui est celui de faire vivre les hommes ensemble. Tant qu'on n'a pas l'art politique, que se passe-t-il ? C'est que chaque individu va développer des techniques, mais ça ne va jamais être capitalisé, si vous voulez, hein, pour la société. Et donc, chaque génération va oublier les techniques de la génération précédente. Il n'y aura pas de progrès, justement. Donc, pas de progrès technique sans art politique, sans art de vivre ensemble, sans transmission de génération en génération. On voit ici qu'en fait, le progrès technique n'est progrès qu'à partir du moment où il y a l'idée d'une humanité, justement. D'une espèce humaine et pas seulement quand la technique en reste à un pur savoir-faire, une pure inventivité individuelle. L'art politique donc permet aux hommes de capitaliser le savoir-faire technique et ainsi d'instaurer un progrès, parce que dès lors que certaines techniques sont vraiment acquises et transmises, comme par exemple, je sais pas, l'art de chasser pour se nourrir et de se protéger des bêtes sauvages, alors le progrès va être possible. On va pouvoir inventer des techniques plus raffinées. On va pouvoir, par exemple, se préoccuper d'agriculture, se préoccuper de confectionner des vêtements plus raffinés, etc. La deuxième nécessité de la politique, c'est aussi pour penser le sens de la technique. Il ne suffit pas d'avoir une puissance technique, il faut savoir quoi en faire, il faut savoir quelle décision prendre. Donc, il y a normalement dans la technique une réflexion sur l'articulation entre les moyens et les fins. Quelles fins voulons-nous poursuivre et quels moyens utiliser pour cela ? Ou par ailleurs, nous avons des moyens, est-il légitime ou non de les utiliser ? À quelle fin allons-nous le faire ? Et ça, c'est le rôle du politique. La technique en elle-même, en tout cas dans un premier temps, nous pouvons dire qu'elle est moralement neutre. Le technicien, le scientifique, nous donne des possibilités, une certaine puissance, mais c'est au politique de dire si ces possibilités vont être ou non utilisées et donc et à quelle fin. Je vous donne un exemple. Un certain nombre de techniques médicales, l'anesthésie, par exemple, ou la chirurgie, sont des possibilités, des potentialités que nous avons, mais la loi, c'est-à-dire le politique, réfléchit à la manière de les utiliser. Donc il y a par exemple une loi qui encadre certaines pratiques qui seraient illégitimes pour, en utilisant ces techniques, comme par exemple, je sais pas, on pourrait, un anesthésiste peut tuer par exemple, ou un chirurgien peut faire du trafic d'organes. D'accord ? Donc on a un pouvoir technique, mais aux politiques de dire l'usage légitime. D'accord ? Aux politiques de réfléchir aux fins. La technique, elle, ne donne que des moyens. Donc l'articulation technique et politique, qui déjà effleure dans le mythe de Prométhée, est absolument fondamentale pour comprendre que la technique est un ensemble de moyens, d'accord ? Mais pour faire usage de ces moyens, il nous faut réfléchir aux fins. Il nous faut réfléchir aux fins, et c'est normalement le rôle du politique, de l'art politique. Donc on a vu que la présence de la technique chez l'homme marque une forme de rupture dans la nature. C'est une différence fondamentale avec l'animal. On peut dire que, en ce sens-là, la notion de progrès technique renvoie à l'idée d'un arrachement à la nature. Vous voyez, la technique est progrès parce que l'homme, grâce à la technique, s'arrache à l'instinct, s'arrache à la nature. On parlerait d'une notion prométhéenne. Vous voyez, la technique est une notion prométhéenne au sens où ça renvoie à cette figure de Prométhée qui va tirer l'homme de sa condition misérable dans la nature. L'homme prend en main sa destinée. Vous voyez, la figure de Prométhée est une figure qui revient de manière régulière à chaque fois qu'il est question de parler d'une humanité qui est plus caractérisée par sa culture que par la nature et par sa capacité à s'extirper de la culture, justement. C'est en cela que la notion de progrès est prométhéenne. Cependant, on peut quand même relativiser cette rupture avec la nature. Et on pourrait dire que dans la nature, il y a déjà cet élan qui pousse l'homme vers la technique. Déjà, Aristote critiquait, il ne faut pas trop dire déjà Aristote, comme si les anciens étaient plus idiots que nous. Aristote, le grand Aristote, critiquait l'idée d'un homme totalement démuni. Donc il critiquait bien sûr Platon. Quand il disait ça, il disait non, Aristote n'a pas du tout la même vision de la nature que Platon. Il voit la nature de manière beaucoup plus positive, disons. Et il dit que l'homme n'est pas si démuni par la nature. Il fait remarquer, notamment, alors Raphaël l'avait développé la semaine dernière, combien la main de l'homme est un outil exceptionnel. Puisque, alors outil et organe, d'ailleurs, c'est le même terme en grec, organon. Hein. Donc l'outil est le prolongement du corps, on va y venir, c'est un organe, un second organe, mais déjà la nature nous a donné un outil, outil-organe, organe-outil, la main, qui en fait n'a nul autre, comment dire, ne peut être comparé à nul autre chez aucun animal, pour Aristote, hein, c'est parce que la main en fait est un outil multitâche, quoi. C'est pas un outil, c'est plusieurs, donc elle peut pincer, elle peut saisir, elle peut presser, elle peut tordre, etc. Alors que normalement, un outil ou un organe est assigné à une fonction. Ce n'est pas le cas de la main. Et donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'en dotant l'homme de cet outil exceptionnel, la nature appelle déjà l'intelligence, appelle déjà l'homme à utiliser sa capacité intellectuelle. Je vous donne une petite citation. Il dit « C'est à l'être capable d'acquérir le plus grand nombre de techniques que la nature a donné l'outil, de loin le plus utile, la main ». Donc c'est à l'être capable d'acquérir le plus grand nombre de techniques que la nature a donné l'outil le plus utile, la main. Oui, il y a déjà en l'homme, pour Aristote, naturellement la capacité, le potentiel intellectuel pour se servir de la main et pour trouver des finalités, des utilités à ce potentiel technique qui est déjà dans notre corps. Voilà, on aurait donné la même main à, je sais pas moi, une girafe, hein. Elle aurait vraisemblablement, selon Aristote, pas pu s'en servir aussi bien que l'homme, parce qu'il y a déjà dans la nature humaine ce potentiel intellectuel. Donc, ce qui m'amène à dire que, en relativisant, si vous voulez, cette rupture avec la nature, qu'en fait, l'idée de progrès technique, de progrès par la technique, est une caractéristique de l'espèce humaine, de l'humanité en tant qu'espèce naturelle. C'est une idée très, enfin, je crois, importante pour éviter d'avoir une idée trop volontariste de la technique. Le progrès technique n'est pas dû au seul effort d'une volonté. Le progrès technique n'est pas dû au seul effort de l'individu, qui de toutes ses forces essaye de s'extirper à la nature. Évidemment, ça c'est dans le mythe de Prométhée. hein, Prométhée, modèle de l'homme qui veut s'arracher à la nature, etc. Mais on le sait bien, l'homme ne s'arrache pas à la nature en un jour, il ne s'est pas arraché à la nature en un jour, c'est un effort lent et continuel de l'évolution humaine et de son histoire. Évidemment, ce n'est pas seulement une question d'évolution, mais c'est surtout une question d'histoire, de transmission et de culture. Cette idée, donc cette articulation entre technique, évolution et histoire, elle est pensée par le philosophe Bergson dans l'évolution créatrice, notamment. Donc ça correspond au premier texte que j'ai mis sur les feuilles. Je vous donne un contexte très global, enfin un résumé de la thèse principale de l'ouvrage, mais ce sera vraiment très partiel et insuffisant. Mais ce que dit Bergson, c'est qu'il définit, si vous voulez, l'intelligence humaine comme faculté d'adaptation. C'est une définition classique qu'il reprend. Hein, l'intelligence humaine est faculté d'adaptation. Mais cette faculté d'adaptation n'est pas propre à l'homme. Elle caractérise tout vivant. Tout être vivant s'adapte à son milieu. Mais l'homme va le faire d'une manière spécifique, par son intelligence. Pour lui, si vous voulez... L'évolution n'est pas linéaire, mais plurilinéaire. Il y a plusieurs types d'évolution. Donc, en gros, il y a l'évolution des végétaux, celle des animaux et celle des hommes. Je laisse de côté les végétaux. L'animal, lui, s'est adapté par l'instinct. L'homme s'est adapté par l'intelligence. Alors, ce qui renvoie au texte, c'est-à-dire que, du coup... Non seulement on va pouvoir expliquer l'évolution de l'homme, c'est-à-dire sa capacité à s'adapter par l'intelligence, mais on va aussi pouvoir expliquer son histoire. Hein. L'évolution, c'est un processus inconscient, l'histoire, c'est un processus conscient. Et donc, il y a une sorte de correspondance entre les deux points de vue. Alors, on ne peut pas lire tout le texte, mais simplement regarder le passage que j'ai moi-même souligné. Si nous pouvions nous dépouiller de tout orgueil, si, pour définir notre espèce, nous nous en tenions strictement à ce que l'histoire et la préhistoire nous présentent comme la caractéristique constante de l'homme et de l'intelligence, nous ne dirions peut-être pas homo sapiens, mais homo faber. Alors, l'expression est célèbre. En fait, Bergson définit l'homme comme homo faber. En définitive, l'intelligence, envisagée dans ce qui en paraît être la démarche originelle, est la faculté de fabriquer des objets artificiels, en particulier des outils à faire des outils, je vais revenir sur l'expression, et d'en varier indéfiniment la fabrication. Donc en fait, l'idée de Bergson, c'est qu'il prend auparavant l'exemple de la machine à vapeur, et il dit, ben, si on se projette dans plusieurs siècles, on retiendra peut-être de notre époque, ou de l'époque du 19e siècle, disons, la machine à vapeur. C'est peut-être l'essentiel de l'intelligence. Une époque, comme on a parlé de l'âge de pierre, l'âge de fer, etc., une époque, les productions intellectuelles d'une époque se résument, se condensent de manière essentielle dans ces productions techniques. Si vous voulez, pourquoi est-ce que l'intelligence apparaît de manière si originelle dans la technique ? L'animal s'adapte grâce à son instinct. C'est-à-dire qu'en fait, la nature l'a programmé à s'adapter. C'est très maladroitement dit, parce qu'en fait, ce n'est pas exactement comme ça que ça se passe, parce que personne ne pense pas qu'il y ait une sorte de plan dans la nature. Hein. Mais il est naturellement programmé n'étant pas un terme très exact, mais il est naturellement adapté. Hein. Ses organes sont déjà organisés pour s'adapter à la nature. L'homme, lui, n'a pas suffisamment d'organes organisés, d'outils organisés, qu'on appelle les organes. Et donc, il va créer des outils pour s'adapter à partir de la matière inorganique, à partir du non-vivant. Il va se fabriquer des organes. Voilà. Et c'est ça que veut dire l'expression « des outils à faire des outils ». Il va utiliser de la matière inorganique, de la matière non-vivante, pour se faire des organes. C'est ça, les outils, pour se faire des outils. Des outils à faire des outils. Et donc, pour Bergson, ça, c'est non seulement une évolution, mais vraiment un progrès. Dans la mesure où, en fait, l'homme va utiliser de la matière inorganique, par exemple la pierre, l'eau, hein, l'acier, enfin le fer. Et il va finalement faire revenir cette matière dans le vivant, utiliser cette matière au service de la vie, puisque c'est ce qui va nous permettre de nous tenir en vie. Donc en fait, par son intelligence, l'homme dompte la matière inorganique et en fait du vivant. Et pour Bergson, ça c'est vraiment la marque d'un élan vital, voyez, de l'élan vital, de la vie hein, qui continue, de la vie qui invente. Prenons l'exemple de la prothèse. D'accord. Donc, la prothèse, c'est l'usage, disons par exemple, je sais pas en quoi sont les prothèses exactement, j'imagine de métal, pas seulement, hein, mais il y a un peu de métal dans les prothèses, j'imagine bien. Donc parlons pas des matières chimiques type plastique, etc. Hein, pour l'instant, parce que pour comprendre l'idée de Bergson, c'est imaginons donc qu'on va utiliser du métal, de la matière inorganique, pour faire comme de l'organique. La prothèse, c'est intéressant parce que la prothèse, c'est l'outil qui prolonge le corps. Je sais pas, j'ai l'image de, enfin c'est pas moi, elle me vient pas de moi, mais j'ai vu un philosophe développer l'exemple de Oscar Pistorius. Bon, il est tristement célèbre maintenant à cause d'un fait divers, mais vous savez la personne handicapée qui est aussi un champion de 100 mètres, je crois, enfin un coureur de, un sprinter très célèbre. Donc on a en tête ces images, on voit ces prothèses extraordinaires, on voit à quel point là l'outil est le prolongement de l'organique. Vous voyez, l'outil est, c'est de l'organique, pratiquement, presque de l'organique, fait à partir de l'inerte. Et ça c'est la marque de l'intelligence de l'homme qui s'adapte à la nature, qui lui permet de s'adapter à la nature, qui retourne la matière contre elle-même, qui dompte la matière inerte, pour en faire, en fait, du vivant, ou comme du vivant. Et on le voit bien, d'ailleurs, notre rapport à nos outils est presque comme cette prothèse, c'est-à-dire que nos outils, parfois, sont le prolongement de notre corps. Nos chaussures, par exemple, c'est un outil, nos chaussures, hein, ça, au sens où c'est pas forcément articulé, c'est pas une machine, mais c'est un outil. La chaussure, c'est quelque chose qui sert à quelque chose, hein, c'est un outil. Bah, la chaussure, c'est presque déjà encore notre pied. Le téléphone, hein, on voit bien, le téléphone, on le sent au bout de sa main, pratiquement. On a l'impression que la sensibilité va jusqu'à la frontière de l'outil, quoi. C'est pareil avec la voiture, parfois, ceux qui passent beaucoup de temps dans la voiture, ils ont l'impression que la voiture est l'enveloppe naturelle de leur corps, pratiquement. Bon, voilà, on a ce rapport-là à l'outil. Il y a une frontière presque assez mince, parfois, entre, même si elle est évidemment jamais totalement abolie, hein, mais il y a une frontière assez mince entre l'outil et le corps, l'organique et l'inorganique, l'inorganisé. Et ça, c'est le fruit de l'intelligence humaine. Et donc, pour Bergson, c'est un progrès de l'espèce humaine, enfin, de l'humanité en tant qu'espèce, plutôt. Progrès de l'humanité en tant qu'espèce. Alors, dans cette première partie, pour l'instant, on a considéré l'idée d'un progrès de l'humanité ou de l'homme par la technique, grâce à la technique, de la puissance technique comme marque de son intelligence, son intelligence étant la capacité à réfléchir à des fins, à trouver des moyens, marque de son intelligence aussi comme capacité de s'adapter à la nature et de créer du vivant à partir de l'inerte, ou de maintenir la vie à partir de l'inerte. Maintenant, il nous faut considérer, je pense, l'idée de progrès technique au sens du progrès de la technique. Le progrès technique, ce n'est pas seulement le progrès grâce à la technique, le progrès pour les hommes grâce à la technique, c'est le progrès de la technique elle-même. La technique est un processus. Hein, la technique est elle-même un processus de progrès. Et donc on se demandera si le progrès de la technique est aussi un progrès de l'humanité, hein, si on peut maintenir le parallélisme, si l'accroissement de la puissance technique est aussi un accroissement de la puissance humaine. Et c'est là où peut-être on va discerner un problème, parce que peut-être qu'à un moment, l'accroissement du progrès de la technique devient une menace pour l'humanité. Voilà, vous avez suivi mon raisonnement. Alors, tout d'abord, donc, le progrès de la technique. Donc le progrès de la technique s'est fait essentiellement par la science, hein, grâce au lien avec la science. On avait vu avec Raphaël que la technique humaine implique toujours un savoir, une conscience. et que c'est justement la différence entre la technique humaine et les productions de l'animal. Raphaël avait cité un texte de Marx, que je ne vais pas développer, mais où Marx donne l'exemple de la différence entre la toile d'araignée ou la construction de l'abeille dans sa ruche et celle de l'architecte ou du tisserand. Il peut y avoir de très admirables productions animales, mais la différence, c'est qu'elles ne sont pas pensées. L'araignée ne pense pas sa toile avant de la tisser, l'abeille ne pense pas la ruche, ne fait pas de plan. L'homme, lui, conçoit avant de faire. Alors, on peut dire que ça, c'est une caractéristique universelle de la technique. Mais il se trouve qu'avec la révolution moderne des sciences, donc on peut situer à peu près à la Renaissance et majoritairement en physique au XVIIe siècle, donc la méthode scientifique change. On sait, bon, je ne rentre pas dans les détails, mais on sait que la physique progresse réellement en termes de découverte des lois de la nature. Là, pour le coup, il y a vraiment un progrès au sens où la physique découvre vraiment les lois de la nature. Pourquoi ? Alors évidemment, ça demanderait en soi un cours, mais voilà, je résume simplement une idée. C'est que la nature n'est plus vue de la même manière. Donc à partir de, en gros, Copernic, Galilée surtout, Descartes, Newton, Kepler. On le voit en particulier chez Descartes, que je connais bien, contrairement à Newton ou Kepler, donc je ne parlerai que de Descartes. La nature n'est plus vue, comme le voyaient les anciens, comme un tout finalisé. On va laisser de côté en fait, ce qu'on appelle en philosophie la cause finale. C'est-à-dire qu'on va plus s'intéresser en science à la finalité, à la question de la finalité, à la question du pourquoi, disons. Mais on va en rester à la question du comment. Descartes va considérer que la matière est quantifiable. Ce qui intéresse le scientifique dans la matière, c'est uniquement ce qui est quantifiable. La matière est une quantité d'étendue. On va laisser de côté ce qu'on a appelé les qualités secondes, par exemple les qualités perceptives. Est-ce que c'est chaud? Est-ce que c'est froid? Est-ce que c'est dur, mou, etc. Ça, peu importe, c'est extrêmement subjectif. En revanche, on va s'intéresser à la quantification dans la matière, d'où l'usage de l'outil mathématique qui devient de plus en plus important en sciences physiques. La science physique est mathématisée. Du coup, on n'a plus besoin d'hypothèses métaphysiques complexes pour rendre compte de la nature, comme le faisaient les philosophes depuis l'Antiquité. Et on n'a plus besoin d'hypothèses métaphysiques complexes pour parler du corps, puisque le corps devient, le corps même humain, devient une partie de cette matière quantifiable. Et donc, à ce titre, on va pouvoir aussi en étudier les lois, sans se demander comment le corps est en rapport avec l'âme, par exemple, voyez ? Ce que faisaient les médiévaux. Mais Descartes va dire, peu importe cette question de l'âme, qui est une question métaphysique très importante pour Descartes, évidemment, mais qu'il va réserver à la philosophie et à la métaphysique, mais scientifiquement, on va pouvoir parler du corps en termes de loi. Et ça, en fait, ça va entraîner des progrès dans le domaine technique. Et en particulier, des progrès pour la médecine, si on doit prendre un exemple concret. C'est-à-dire qu'il se trouve que la révolution des sciences modernes, c'est-à-dire cette idée qu'on va parler de la matière en termes quantificateurs, enfin on va quantifier la matière et on va essayer de la comprendre à travers des lois universelles, essayer d'en prévoir les effets en connaissant les lois, et bien cette idée-là va permettre de prévoir aussi ce qui se passe dans le corps, de l'étudier de manière plus objective et ainsi de pouvoir agir avec plus d'efficacité sur le monde, sur la nature, sur le corps. Alors, vous avez un texte de Descartes, deuxième texte, qui est extrait, donc un texte très célèbre dont est tirée la fameuse phrase de Descartes qu'on va commenter, qui est très souvent citée quand il est question justement de la maîtrise technique, et du progrès par la technique. Mais ce qui est intéressant, je crois, cette phrase, donc l'homme sera comme maître et processeur de la nature, disait Descartes, c'est le texte, c'est intéressant de revoir cette phrase en contexte, parce que je trouve que souvent, on la surinterprète un petit peu, en disant, oh, Descartes, c'est le début de la fin, ça y est, l'homme se croit tout permis, etc. Il ne faut pas oublier ce qu'étaient les médecins, par exemple. Je trouve que l'exemple est parlant. Il ne faut pas oublier ce qu'étaient les médecins au XVIIe siècle. Quand on a lu Molière, on comprend cet espoir qu'il peut y avoir dans la capacité à parler scientifiquement du corps. Cet espoir qu'il peut y avoir dans le progrès technique grâce à la science. Et donc pensons à cet exemple en lisant ce texte, parce qu'il est question de la médecine ici. Je n'ai pas mis la suite, mais il est question spécifiquement de la médecine. Alors là, pour le coup, je crois qu'on va se donner le temps de le lire. Sitôt que j'eus acquis quelques notions générales touchant la physique, et que, commençant à les éprouver en diverses difficultés particulières, j'ai remarqué jusqu'où elles peuvent conduire et combien elles diffèrent des principes dont on s'est servi jusqu'à présent, d'accord, donc révolution des sciences, nouveaux principes de la science, j'ai cru que je ne pouvais les tenir cachés sans pécher grandement contre la loi qui nous oblige à procurer autant qu'il est en nous le bien général de tous les hommes. Donc diffuser la science, c'est un bien pour tous les hommes. C'est même un devoir moral. Car elles m'ont fait voir ces notions générales de physique, hein, première ligne. Donc elles, c'est les notions générales de physique. Elles m'ont fait voir qu'il est possible de parvenir à des connaissances qui soient fort utiles à la vie. Et qu'au lieu de cette philosophie spéculative qu'on enseigne dans les écoles, ça c'est pour les philosophes du Moyen-Âge, enfin les issus hein, de ce qu'on appelait la scolastique, c'est-à-dire les écoles de pensée du Moyen-Âge. Donc, la philosophie spéculative, c'est la philosophie trop abstraite. Vous voyez, la philosophie philosophante, quoi, celle qu'on caricature parfois comme étant bien trop abstraite et pas du tout au service de la vraie vie, hein, qui ne fait pas vraiment avancer l'humanité, justement. Donc, la science, c'est un savoir qui va faire avancer l'humanité. C'est ce que dit Descartes. Donc, je relis, pardon. C'est moi qui souligne hein, dans le texte. Elles m'ont fait voir qu'il est possible de parvenir à des connaissances qui soient fort utiles à la vie et qu'au lieu de cette philosophie spéculative qu'on enseigne dans les écoles, on en peut trouver une pratique. Une philosophie pratique. Par laquelle, connaissant la force et les actions du feu, de l'eau, de l'air, des astres, des cieux et de tous les corps qui nous environnent, y compris le nôtre, aussi distinctement que nous connaissons les divers métiers de nos artisans, nous les pourrions employer en même façon à tous les usages auxquels ils sont propres et ainsi nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature. Le comme est important. Descartes ne dit pas nous serons le maître et le possesseur de la nature, parce que le maître et possesseur de la nature, c'est Dieu pour Descartes. Hein. Mais comme Dieu, quand même une nuance. Ce qui n'est pas seulement à désirer pour l'invention d'une infinité d'artifices qui ferait qu'on jouirait sans aucune peine des fruits de la terre et de toutes les commodités qui s'y trouvent. Donc vous voyez, Descartes n'est pas ce méchant anti-écolo qui nous dit de dominer et d'asservir la nature. Non, pas pour, dit-il, une infinité d'artifices qui ferait qu'on jouirait sans peine des fruits de la terre et de toutes les commodités qui s'y trouvent. On n'est pas là pour abuser de ce que la terre peut produire. Mais principalement aussi pour la conservation de la santé, laquelle est sans doute le premier bien et le fondement de tous les autres biens de cette vie. Donc la santé, en fait, c'est un prolongement du mouvement de la nature. Hein, d'accord ? Donc on n'est pas là non plus pour violenter la nature, mais plutôt pour permettre à la vie de se prolonger. La santé, c'est quand même un exemple qui n'est pas du tout contraire à la nature. Hein. Accroître les progrès de la santé, les progrès de la médecine par la technique, ce n'est pas contraire à la nature, bien au contraire. C'est pour permettre à la vie de se prolonger. Voilà. J'arrête là, la lecture de ce texte. Donc, on a l'idée, avec Descartes notamment, mais plus largement au XVIIe puis au XVIIIe siècle, hein, siècle des Lumières, l'idée que la raison va entraîner, enfin va faire sortir l'homme d'un état de minorité, de dépendance par rapport à la nature, notamment, pas seulement, mais par rapport aussi à la nature, va sortir l'homme de cet état de dépendance pour qu'enfin il puisse vraiment prendre en main sa destinée. Grâce à la raison, grâce à la science. La science, c'est vraiment le ferment du progrès. Si on doit prendre un exemple au XVIIIe siècle, le débat par exemple qui a eu lieu avec les physiocrates, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose au cours d'histoire, donc les cercles d'ingénieurs agronomes, on pourrait dire, hein, c'est-à-dire d'hommes qui étaient nourris de science, qui connaissaient théoriquement l'agriculture et qui essayaient petit à petit de diffuser leurs idées de technologie, enfin de connaissance de la technique, dans les milieux agricoles afin de permettre un accroissement de la productivité agricole, puisqu'il y avait des famines récurrentes, c'était un problème récurrent, l'agriculture ne produisait pas assez. Donc il fallait, grâce à la science, à la connaissance des fonctionnements de l'agriculture, par exemple, je sais pas, moi je me souviens de mes vieux cours d'histoire, l'assolement triennal, la jachère, etc., sont des mesures qui étaient préconisées par les physiocrates. Donc vous voyez, là on a l'opposition ou la distinction entre le physiocrate, donc, qui est un scientifique, un chimiste, un scientifique, donc, qui n'a pas de pratique de la terre, il n'a pas l'expérience de la terre, mais il va préconiser par son savoir théorique des mesures pour la technique. Et puis par ailleurs, on sait à quel point les idées mettent longtemps à se diffuser parmi les gens qui pratiquent. Donc c'est une distinction qu'on peut faire entre la technique et, disons, le savoir-faire empirique. Le savoir-faire empirique consiste simplement à répéter un geste qu'on a vu faire par son père, qu'il a vu faire de son père, qu'il a vu faire de son père. Il n'y a pas nécessairement de progrès très rapide dans le savoir-faire empirique. C'est ce qui fait que l'agriculture n'a pas beaucoup changé, en fait, par exemple, pendant tout le Moyen-Âge. Hein, les pratiques agricoles n'ont pas beaucoup changé. Et donc, la crise de sous-production était récurrente chaque année, chaque hiver. Les famines, donc, aussi. L'idée, à partir de ces progrès scientifiques du XVIIe et du XVIIIe siècle, c'est que la science va permettre de passer d'un savoir-faire empirique répétitif à une technique fondée sur la connaissance des principes. Hein, le technicien connaît les principes. C'est la différence, disons, peut-être aussi entre l'artisan et l'ingénieur. Voilà. Alors, le progrès, du coup, va pouvoir être caractérisé par le passage de l'outil à la machine. Donc, Raphaël en a parlé, mais j'aimerais y revenir quand même, préciser un certain nombre de choses, pour ceux qui étaient là à la dernière conférence de Raphaël. Donc, il y a quelque chose qui a changé hein, dans nos productions techniques, c'est l'automatisation. Donc le mouvement de l'outil, en fait, est simplement le mouvement du corps. C'est le mouvement que le corps lui donne. Hein, on a dit tout à l'heure que l'outil était un organe, un autre organe, donc le prolongement de notre corps. Donc le marteau n'a que le mouvement que mon bras veut bien lui donner. La machine, elle, a un mouvement automatisé, c'est-à-dire que en fait, c'est un circuit, une machine. Donc le mouvement s'entraîne lui-même, se reproduit lui-même. Il suffit d'une première impulsion extérieure, appuyer sur un bouton. Il suffit d'une source d'énergie et le mouvement est lui-même automatisé. Il se reproduit lui-même. La machine entraîne un accroissement de la puissance humaine. Alors, accroissement de la puissance parce que grâce aux machines, en fait, on a pu faire des tâches qui, jusqu'alors, étaient inaccessibles à l'homme, impensables même. Hein. Ça a ouvert des potentialités qu'on n'avait pas soupçonnées. Par exemple, le téléphone, ça permet de se parler à distance. Alors, je ne sais pas, c'est vraiment un exemple honteux, mais quand on regarde Les Visiteurs, par exemple, le film, ou tous les films qui jouent sur ce décalage, ce retour vers le passé, l'arrivée des gens du passé dans leur futur, c'est qui est notre présent, on voit bien à quel point, effectivement, ils ne pouvaient pas anticiper, il n'y avait même pas de désir de l'humanité d'arriver à se parler à distance par le téléphone. Hein, il n'y avait pas de désir de l'humanité de se laver les dents, bon, dans Les Visiteurs. Donc, grâce à la machine, on a accru notre puissance, au sens où on a pu accomplir des tâches jusqu'alors absolument impensables. Accroissement de la puissance et accroissement de la productivité. Et c'est en cela que, pour le coup, la machine est apparue comme libératrice, comme un véritable progrès, puisque autant d'efforts permet beaucoup plus d'efficacité grâce à ce mouvement automatisé de la machine. Donc, en une journée de travail, grâce aux machines agricoles, on démultiplie la production. Une journée de travail n'a plus du tout la même signification en termes de production. Alors, ce gain est un progrès, dans la mesure où il libère l'homme d'un travail aliénant, pénible, on l'avait dit. Moulinex libère la femme, je crois que c'était le slogan de Moulinex dans les années 70. Et c'est vrai, enfin, la femme, bon... C'est vrai que ça a plus libéré la femme, l'homme aussi peut-être, mais ça a plus libéré la femme. Donc c'est du temps qui a été gagné pour autre chose, il est vrai. Bon, mais ce qui se passe, et Raphaël l'a montré avec le travail, hein, l'influence de la technique dans le monde du travail, donc je ne vais pas parler spécifiquement de ça, mais l'amélioration technique des machines, rendant les machines plus performantes, n'est pas vraiment un progrès pour l'humanité, pour l'homme, parce que c'est à l'homme de s'adapter à ces machines. L'homme doit, du fait de la complexité de la machine, du fait que précisément tout le processus est internalisé dans la machine, hein, le processus n'est plus visible. L'usager de la machine doit s'adapter, doit apprendre le fonctionnement, et Dieu sait si ça peut être difficile parfois, Dieu sait si on peut mettre du temps à comprendre, ne serait-ce qu'un mode d'emploi. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un écart qui se creuse entre les concepteurs de la machine, qui sont une toute petite minorité, qui maîtrisent à peu près leur machine, mais on va voir qu'en fait, c'est pas si simple, parce que celui qui fait des machines utilise des machines, qu'il ne maîtrise peut-être pas forcément. Donc on est toujours à la fois et concepteur et utilisateur. Mais disons qu'à la limite, il y a un écart qui se creuse entre une minorité de concepteurs qui comprennent ce qu'ils, les moyens qu'ils mettent en œuvre, donc qui peuvent effectivement encore, on peut encore dire qu'ils pensent des moyens pour une fin, et les utilisateurs des machines qui ne savent pas du tout ce qu'ils font quand ils utilisent une machine. Nous ne savons pas ce que nous faisons quand nous utilisons un ordinateur. On appuie sur des boutons, à part quelques rares exceptions parmi nous. Nous ne savons pas ce que nous faisons quand nous conduisons une voiture. Moi, je ne sais pas ce que je fais quand je conduis une voiture. Quand on me disait embraye, je ne sais pas quoi, ça veut dire appuyer sur une pédale pour moi, embrayer. Ça veut dire appuyer sur une pédale. Ça ne veut pas dire un truc qu'on m'a expliqué que je n'ai toujours pas compris. C'est-à-dire, je ne sais pas quoi, qui peut faire passer la boîte de vitesse. Voilà, je n'ai aucune connaissance en mécanique. Il paraît que maintenant, pour passer le permis de conduire, il faut un peu de mécanique. Mais vous voyez, on peut très bien utiliser une voiture sans savoir ce qu'est une voiture. Donc on ne pense pas du tout l'articulation des moyens à la fin. On connaît la fin, mais on ne sait pas du tout comment les moyens s'articulent, du fait de la complexité. Le processus est totalement internalisé. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il est absolument caché à l'utilisateur. L'utilisateur ne veut certainement pas en entendre parler, il veut simplement s'en servir. En tout cas, moi, je ne veux pas du tout qu'on m'explique comment marche la voiture. Je n'ai pas du tout envie d'essayer de comprendre ça, parce que je ne comprends pas. Par exemple, on dit que les enfants doivent apprendre l'informatique. C'est amusant, ils n'apprennent pas l'informatique. À part dans quelques écoles Montessori, paraît-il, où on commence d'abord par ouvrir un ordinateur et regarder ce qu'il y a à l'intérieur, quels sont les composants. Bon, donc j'imagine que c'est une démarche assez intelligente où on essaye quand même de s'approprier la machine en termes de compréhension des moyens. Mais on n'apprend pas à faire de l'informatique, on apprend à utiliser. On apprend à appuyer sur les boutons, quoi, en gros. Alors, ce phénomène a notamment été analysé de manière assez magistrale, très célèbre, par un auteur qui s'appelle Georges Simondon, dans un ouvrage qui a fait date, qui s'appelle « Du mode d'existence des objets techniques », publié en 1958. Donc, je vais simplement rendre compte d'un texte donc, qui se trouve chapitre 2, paragraphe 2, voilà, où donc, il fait cette analyse sur la machine, qui m'intéresse parce qu'en fait, il montre que donc il est vrai que la machine, nous sommes dépossédés de nos machines, contrairement à nos outils. Donc, quand les outils sont encore le prolongement de notre corps, la machine, elle, dit-il, est un individu technique. C'est un autre individu, d'accord ? Un individu posé à côté de nous, un individu qui accomplit des tâches techniques à côté. Par exemple, dans la fabrique ou dans l'usine, Simondon dit que l'activité des machines est parallèle à l'activité des hommes. L'activité des machines n'est pas menée par les hommes, mais simplement, elle est à côté. Hein, donc, l'homme, les ouvriers, par exemple, accomplissent leurs tâches, et parallèlement, les machines accomplissent la leur. Et ce qui est intéressant pour notre sujet, pour notre question, c'est qu'en fait, du coup, le progrès effectif qui est permis par la machine, l'accroissement de la productivité, par exemple, ou le gain de temps, n'est plus perçu par l'homme comme son propre progrès, n'est plus perçu comme l'accroissement de ses propres forces. Si vous voulez, l'agriculteur, par exemple, qui se rendait compte que l'usage d'une charrue était un progrès, lui permettait de gagner du temps, permettait d'accroître sa production. D'accord ? Donc, nous avons une perception du progrès dans les outils. Nous pouvons observer faire l'expérience de ce progrès. Avec les machines, nous ne faisons pas l'expérience du progrès. Parce qu'en fait, nous n'avons plus la capacité de penser le progrès permis par la machine. C'est ce que dit Simondon. Il dit « La machine n'est pas une extension des forces du corps individuel. La machine n'est pas une extension de nos forces. » En fait, le gain global, le progrès, c'est pas le progrès de l'individu, c'est le progrès de la société, c'est le progrès de l'entreprise, c'est un gain global, mais c'est jamais un gain de l'individu. La machine n'améliore pas le travail individuel, mais elle améliore le système. Elle permet un gain de productivité du système. Et donc, on peut dire qu'on s'habitue au progrès technique au point de ne plus le voir. Nous ne voyons plus le progrès technique permis par les machines. Nous nous y habituons. Mais on ne l'apprécie pas comme un progrès. Voilà, c'est peut-être ça qu'il faudrait saisir, c'est que nous n'apprécions pas le progrès que les machines permettent. Il y a un progrès en termes de gain de productivité, mais nous n'apprécions pas individuellement, nous ne faisons pas l'expérience de ce progrès. Voilà, ce qui nous amène à l'idée que le progrès est impensable. Alors, il faut que j'accélère. Si on doit donner deux caractéristiques du progrès technique, cette fois, d'accord, la technique en tant que processus d'accroissement de puissance, on peut dire deux choses. Il est irréversible, on ne peut pas revenir en arrière, justement parce que nous nous sommes habitués. Alors l'analyse est classique, on s'habitue à être déchargé de l'accomplissement de certaines tâches, laver le linge, coudre, semer, et on s'habitue aussi aux possibles qui se sont ouverts, se parler à distance, à tout instant, ne plus se fixer de rendez-vous, se rappeler, etc. On change immédiatement nos manières de vivre et on devient totalement dépendant au point qu'une panne technique pourrait entraîner des conséquences irréversibles, des conséquences dramatiques même. Donc on ne peut pas revenir en arrière, on a oublié certains savoir-faire, il y a plein de choses qu'on ne sait plus faire. On le sait d'ailleurs quand on voyage. J'ai une amie qui était à Madagascar qui m'a dit bon, je ne sais pas faire de la pâte à tarte, je ne sais pas vider un poisson, je ne sais pas, je ne peux pas manger. Il va falloir que je réapprenne tout ça. Bon. Donc on ne peut pas défaire le progrès, il est irréversible et en plus il est cumulatif. C'est-à-dire que le progrès appelle le progrès. Il y a une espèce d'accroissement asymptotique qui est vertigineux. Plus il y a de progrès, plus il y a de progrès. Plus il y a de puissance, plus il y a de puissance. Les effets s'additionnent. À mesure qu'une invention technique apparaît pour soulager un effort, affranchir le travail, en fait, de nouveaux problèmes apparaissent. Et ces nouveaux problèmes sont traités à nouveau par des inventions techniques. Par exemple, une voiture, on le sait, a de plus en plus de fonctions automatisées. J'y comprends rien, mais bon, on me l'a dit. Donc, par exemple, l'allumage des phares, l'essuie-glace, etc. Donc, c'est bien. Hein, pour quelqu'un comme moi, c'est parfait. Vous voyez, ça se fait tout seul. Sauf que ça entraîne plus de pannes qu'avant. Des pannes qu'en fait, un esprit humain ne peut pas traiter tout seul. Un mécanicien, paraît-il, est aujourd'hui incapable de réparer une voiture moderne, enfin récente. Il a besoin de machines pour diagnostiquer la panne et pour la réparer. Bon. Donc, la complexité est telle qu'il faut à nouveau mettre au point des machines pour dépister les pannes et les réparer. Ça veut dire que le progrès est cumulatif et asymptotique. Donc, un sentiment d'impuissance nous envahit. Le progrès des machines semble une nouvelle fatalité. Il semble suivre son propre cours. Et en plus, il comporte quelque chose d'imprévisible. Et ce caractère marque notre monde dans son ensemble, puisque la technique a envahi tous les domaines. Donc, est-ce qu'il faut redouter le progrès technique comme un mal, comme une menace pour l'humanité, comme nous laisse penser un certain nombre de mythologies modernes qui partent de l'histoire de Frankenstein, la production humaine qui se retourne contre l'homme, hein, qui s'autonomise, qui retourne contre l'homme, et qu'on voit dans quantité de films, hein, ne serait-ce que Matrix, qui a eu un succès phénoménal, disons, dans les 15 dernières années, je ne sais pas de quand ça date, 95, 98, un truc comme ça, presque 20 ans, qui est un film où on voit que les machines colonisent les hommes. Hein. Donc cette idée, la science-fiction ne parle pas de l'avenir, la science-fiction parle des peurs du présent. Cette idée hante nos esprits. Ce qui m'amène, mais je vais être très rapide, à ma troisième partie, qui va penser l'articulation possible ou impossible entre progrès technique et progrès moral. Le progrès technique, en termes de puissance, n'est pas nécessairement un progrès moral, pas nécessairement un bien, voire peut-être un mal en soi. C'est la question. Est-ce un mal en soi ? Ce qui serait quand même un peu excessif, mais il faudrait peut-être réfléchir à cela. Alors, c'est vrai que c'est un préjugé quand même courant. Hein, plus ça progresse, mieux c'est. Hein, il faut aller dans le sens du progrès, il ne faut pas revenir au passé, il ne faut pas être passéiste, il ne faut pas être conservateur, il ne faut pas être encore pire réactionnaire. Mais, je ne parle pas en politique, hein, mais même en termes d'accroissement de puissance, vous voyez, le progrès est considéré, c'est un préjugé, est considéré comme porteur de valeur en soi. Or, on a vu avec nos analyses que le progrès technique n'est pas porteur de valeur en soi, tout dépend ce qu'on en fait. Hein. Tout dépend ce qu'on en fait, tout dépend à quoi ça sert. Donc, j'avais donné l'exemple d'Auschwitz. Bon, ça fait 70 ans qu'on avait fermé les camps, donc pourquoi pas en parler maintenant. On voit qu'il y a des plans extrêmement précis, extrêmement techniques, extrêmement élaborés des camps, qui sont donc des machines vraiment pensées pour exterminer, pour certains en tout cas pour Auschwitz. Donc, on pourrait dire à ce stade-là que la technique est moralement neutre, mais qu'elle peut être utilisée ou pour le bien ou pour le mal, pour parler vite, c'est-à-dire ou pour la vie, ou pour la mort, ou pour l'accroissement de l'humanité, son accroissement quantitatif, mais aussi peut-être son accroissement moral, ou au contraire pour sa destruction. Mais on pourrait aller plus loin et dire que peut-être la civilisation technique dans laquelle nous sommes, la civilisation du tout technique, comporte une sorte de menace en soi. Il y aurait comme un oubli de l'être, un oubli de ce que nous sommes profondément dans cette inflation de la technique. Alors cette idée est développée par Heidegger dans la conférence sur la technique dont on parlait la dernière fois, donc je ne vais pas m'attarder, surtout qu'elle est extrêmement complexe et qu'on n'a plus le temps. Retenons simplement que Heidegger dit que la technique moderne est essentiellement différente de la techné grecque, hein, dont on parlait au départ, de la technique grecque, parce que cette technique moderne s'appuie sur la science et sur sa vision du monde, sur la vision de la nature comme réserve quantifiable, comme fond, hein, comme réserve utilisable. Il y a cette image dans Heidegger, c'est le vent, ça n'est plus que quelque chose qui gonfle les voiles. L'eau, ça n'est plus que quelque chose qui fait tourner des turbines. Hein, c'est une puissance. Et donc cette vision de la nature comme réserve, comme fond, qui vient de la science moderne, fait qu'en fait nous oublions ce qu'est la nature. Nous n'avons plus d'autres points de vue sur la nature et sur nous-mêmes. Quantification et segmentation entraînent un rapport exclusivement utilitaire à ce qui est et à soi-même. Je vous donne simplement une citation que je trouve très belle, très courte. « Le vrai se dérobe au milieu de toute cette exactitude. » C'est dans Essais et conférences, page 36. « Le vrai se dérobe au milieu de toute cette exactitude. » Donc l'exactitude, c'est la vérité scientifique, si vous voulez, c'est l'objectivité. Donc il y a une exactitude dans la quantification. Il y a une prouesse, il y a des prouesses techniques qui témoignent de notre capacité à prévoir les lois de la nature, à les comprendre, ou plutôt à les expliquer. Mais ça, c'est l'exactitude. Mais dans cette exactitude technique, nous oublions le vrai, nous oublions l'être, nous oublions ce que nous sommes. Si vous voulez un exemple qui fait froid dans le dos, mais qui est à la fois très parlant, c'est un livre qui s'appelle « La 25e heure » de Virgil Georgiou, qui est un livre magnifique, mais franchement déprimant, donc qui est écrit par un Roumain, qui raconte, qui est quand même assez autobiographique, donc l'itinéraire d'un homme qui vit pendant justement la Deuxième Guerre mondiale, enfin qui est Roumain, puis qui va connaître toutes sortes de péripéties, et donc il va être d'abord enfermé dans des camps hongrois, puis il va être enrôlé chez les SS, puis finalement il va être pratiquement à deux doigts d'être fusillé par les Américains. Bon, enfin, il a un itinéraire tragique jusqu'à ce qu'il soit quand même réhabilité à la fin de sa vie. Donc il raconte cet itinéraire, et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a la figure d'un écrivain. Donc l'écrivain, le poète, c'est celui qui a gardé un tout petit peu, il paraît complètement décalé par rapport à la société, il paraît complètement à côté de ses pompes, mais en fait c'est peut-être celui qui justement voit les choses, n'a pas totalement oublié l'être, n'a pas totalement oublié le vrai. Et l'écrivain, dans ce livre, dit que la société technicienne est en train d'oublier l'humanité. C'est comme ça qu'il analyse le naufrage de la Deuxième Guerre mondiale. La société technicienne est en train d'oublier l'humanité. Je vous donne juste un exemple, c'est comme dans Kafka. Hein. C'est-à-dire que les gens sont enfermés, ils ne savent pas pourquoi, et personne ne sait pourquoi. Personne n'a pris la décision. On en parlait l'autre jour, la division du travail, la division des tâches, donc division technicienne, division productive. Hein, on va diviser les tâches, donc il y en a un qui va émettre l'ordre, un autre qui va mettre en place l'ordre, un autre qui va enfermer le prisonnier, un autre qui va encore soigner le prisonnier. Il y a tellement de maillons dans la chaîne que plus personne n'a pris la décision. La décision politique est dissoute dans la division technicienne. Et donc ce qui est dit, c'est que la division technicienne oublie l'humanité parce qu'elle oublie l'individu. Elle oublie l'individu, elle ne voit que le collectif, elle oublie l'individu. Et donc plus personne ne prend de décision en tant qu'individu, et les individus qui subissent ces non-décisions, ces processus en fait, sont totalement oubliés. Donc ils ne savent plus pourquoi ils sont enfermés. Hein. Donc il y a des justes qui sont enfermés, ils ne savent pas pourquoi. Donc par exemple, il y a des résistants juifs, roumains au nazisme, qui au moment de la libération par les Américains, restent enfermés en prison pendant des mois. Personne n'a pris la décision, il n'y a pas de responsable. Mais ils sont quand même en prison. On ne sait pas pourquoi. C'est le système technicien qui les engloutit. Société technicienne, plutôt. Je passe un paragraphe que je voulais consacrer aux études de Jacques Ellul, mais je vous laisserai peut-être vous renseigner par vous-même. Jacques Ellul, qui est donc un penseur de la technique, qui a inspiré beaucoup les théories de la décroissance actuellement, un penseur français, qui a écrit notamment Le système technicien en 1977. Et il montre qu'en fait, le progrès technique moderne est une prolifération de moyens sans personne pour penser la fin. Il y a une inflation des moyens, mais il n'y a plus de fin. On ne sait pas à quoi ça sert. En fait, les possibles précèdent le besoin. Et on sait bien qu'en plus, ça peut s'ajouter à une analyse du capitalisme qui ne marche que parce qu'il y a une croissance, et que pour qu'il y ait une croissance, pour soutenir la croissance, il faut précéder les besoins, il faut créer des désirs. Bon. Mais donc il va montrer que la technique est un système, et la notion de système, c'est l'idée que tous les éléments sont interdépendants. Donc il n'y a pas des techniques isolées ou des progrès techniques isolés, il y a un système composé de sous-systèmes qui, dit-il, en 77, sont reliés par ce qu'il voit comme l'invention qui va vraiment permettre que le système technicien soit vraiment achevé, l'ordinateur. Il appelle ça l'ordinateur à l'époque, on dirait plutôt l'informatique aujourd'hui. Donc il dit, en 77, hein, il dit, il n'y a pas Internet, etc., hein, mais il dit, l'ordinateur va permettre de relier les différents sous-systèmes entre eux. Et donc, le système technicien va atteindre une telle complexité que personne ne sera capable de le penser. Personne ne sera capable de le penser. C'est quelque chose qu'on va subir. Il dit d'ailleurs, il ne faut pas avoir peur que les machines remplacent l'homme, parce que les machines ne remplacent pas l'homme au sens où elles n'accomplissent pas des tâches que les hommes auraient pu faire à un moment. En fait, le domaine de la technique devient un domaine totalement non humain. C'est-à-dire que le progrès technique explore des terres vierges, hein, des potentialités que l'homme n'avait même pas soupçonnées. Et qui ne peut même pas toujours bien penser. Bon. Bonne soirée. Donc, que faire ? C'est mon dernier paragraphe. Est-ce qu'il faut se laisser abattre, renoncer à penser le progrès, comme quelque chose qui est totalement autonome, hein ? Renoncer à donner du sens au progrès ? Alors, cette attitude résignée à un penseur... le penseur qui est Hans Jonas cette attitude justement Hans Jonas ne s'y résigne pas. Il écrit en 1979 un ouvrage qui a eu un grand succès, Le principe responsabilité. Alors je résume quelques thèses, mais on lira ensemble le texte. Ce sera une manière de terminer. Donc il affirme qu'en fait, il faut combattre l'idéal utopiste qui accompagne le progrès technique. L'idéal utopiste, c'est la poursuite sans fin de l'abondance par les moyens techniques. Cet idéal, dit-il, est aussi bien présent dans le capitalisme que dans le marxisme. Nous ne pouvons nous le permettre, cette poursuite indéfinie de l'accroissement de la puissance, de l'abondance des moyens, parce que les ressources de la planète sont finies. Donc on ne peut pas avoir une croissance infinie dans un monde fini. Là encore, on entend que ces penseurs ont, que ce soit Ellul ou Jonas, et avant eux Heidegger, ont fortement influencé l'écologie politique, mais même la pensée écologique, et puis la pensée de la décroissance même aujourd'hui. Il préconise une éthique de la responsabilité. C'est-à-dire que cette éthique de la responsabilité pourrait aller jusqu'à freiner le progrès technique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Comment faire ? C'est pas en s'attaquant à la technique elle-même, mais c'est en cultivant ce qu'il appelle une heuristique de la peur. Il faut se représenter l'avenir, se représenter la menace que le progrès technique pourrait constituer pour l'humanité. Plus de puissance entraîne plus de responsabilités. On est obligé de considérer les responsabilités qu'on a non seulement pour nous-mêmes, mais pour la nature et pour le monde, et donc pour les générations à venir. C'est ça l'heuristique de la peur. L'heuristique, ça veut dire ce qui fait advenir une vérité. C'est-à-dire que la peur est féconde. Hein, la peur est féconde. Se représenter une menace, c'est fécond pour notre action responsable aujourd'hui. Alors, je lis le texte qui est troisième position sur la feuille, mais je ne le retrouve plus. Je ne vais pas tout lire. Si le nouveau type de l'agir humain voulait dire qu'il faut prendre en considération davantage que le seul intérêt de l'homme, que notre devoir s'étend plus loin et que la limitation anthropocentrique de toute éthique du passé ne vaut plus. L'idée, c'est que le modèle éthique du devoir, le modèle de devoir qu'on avait jusqu'à présent, notamment dans la morale kantienne, n'est plus suffisant. L'éthique philosophique se cantonnait en fait au présent. Et se cantonner à l'individu. Il va falloir penser un devoir éthique qui étende la responsabilité au-delà de la sphère individuelle et au-delà du présent. Notre responsabilité inclut la nature tout entière et les générations à venir. Pourquoi ? Parce qu'on a plus de puissance. Parce que nos actes n'entraînent pas des conséquences uniquement pour le temps présent et uniquement pour notre entourage immédiat. Nous avons la puissance de faire des actes qui auront des répercussions pour les générations à venir, puisque nous avons la possibilité de tuer l'humanité, et nous avons la possibilité de tuer la nature. Pour lui, c'est clair. Enfin, nous pouvons tuer et la nature et l'humanité. Donc, à partir du moment où on a cette puissance, on a aussi la responsabilité d'en prendre soin. Du moins, n'est-il plus dépourvu de sens de demander si l'état de la nature extra-humaine, de la biosphère dans sa totalité et dans ses parties, qui sont maintenant soumises à notre pouvoir, n'est pas devenu, par le fait même, un bien confié à l'homme, et qu'elle a quelque chose comme une prétention morale à notre égard, non seulement pour notre propre bien, mais également pour son propre bien et de son propre droit. Si c'était le cas, cela réclamerait une révision non négligeable des fondements de l'éthique. Cela voudrait dire chercher non seulement le bien humain, mais également le bien des choses extra-humaines. Vous voyez, il dit que depuis l'Antiquité, la question de préserver la nature n'est pas une question éthique, parce que le monde reste et les hommes passent. Et donc la question éthique, c'est que faire de ma vie, hein. Mais la nature, qui était vue auparavant comme une puissance intimidante, menaçante, la nature est devenue le plus vulnérable. La nature est devenue ce qui doit être protégé. Et ça, c'est tout à fait inédit. C'est-à-dire que du coup, il y a peut-être des devoirs vis-à-vis de la nature. Chose absolument inédite dans l'histoire de l'humanité. Hein. Parce que la question de savoir si le monde va rester après nous est une véritable question. Ce qui est mais impensable pour un homme de l'Antiquité ou même des débuts des temps modernes. C'est impensable. Le monde est ce qui reste et les générations sont ce qui passe. Et bien là, c'est l'inverse. Il n'est pas sûr que et le monde et les générations restent. Ou continue à se que le monde reste et que les générations continuent à se succéder. Juste la phrase que j'ai soulignée, la deuxième phrase que j'ai soulignée, aucune éthique du passé, mis à part la religion, ne nous a préparé à ce rôle de chargé d'affaires. Et moins encore, la conception scientifique dominante de la nature. Ça rejoint les années, ce qu'on a donné tout à l'heure. Donc ce qui me permet en conclusion de dire que la technique est un progrès pour l'homme, le progrès technique est un progrès par l'homme, mais paradoxalement, il devient menaçant pour l'humanité. L'extinction de l'humanité est désormais techniquement possible, d'où l'exigence d'un questionnement éthique inédit, L'homme est amené aujourd'hui à s'interroger pour savoir si sa présence sur Terre est souhaitable, si sa présence sur Terre est ou non un bien. Pour autant, cette question peut se poser à une génération, mais sa présence actuelle ou la présence actuelle d'une génération ne l'autorise pas à décider du droit d'exister des générations à venir. Nous sommes amenés à devoir réfléchir moralement à nos responsabilités vis-à-vis de ces générations qui viennent. Donc notre puissance technique nous contraint à un progrès moral. Vous voyez, c'est peut-être la chance à saisir, c'est que notre puissance technique nous contraint à un progrès moral, à un surcroît de conscience. Alors même qu'il est extrêmement difficile de penser la technique. Mais on peut au moins penser notre rapport aux générations à venir. On peut au moins se demander quel monde nous voulons léguer à ceux qui nous suivront sur cette terre. Cette terre qui n'est pas seulement une chose, c'est peut-être ce qu'il nous faut redécouvrir. C'est que cette terre n'est pas seulement une chose, mais cette terre est un lieu commun que l'on habite, un lieu commun où ont habité les générations qui se sont succédées depuis l'apparition de l'humanité.